Welcome to Greendale's Drug Awareness Show!
I finally have a case of lupus.
Lester, is this what you want?
Mr. Buckland, we are the sexual revolution.
What is up with the sex? It's all anybody thinks about anymore. Sex, sex, sex. What is the big deal?
Call it.
Are you right?
Yeah.
Yeah?
Are we having fun yet?
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, la saison 3, l'épisode 8 avec, comme chaque semaine, l'ami Aurore sans qui cette émission n'existerait pas.
Bonjour.
Bonjour Aurore, tu vas bien?
Oui.
Mais tu es d'accord avec moi quand même. Je ne pourrais pas déblatérer sur les séries télé comme tu le fais si bien.
Mais c'est marrant parce que d'un côté il y a déblatéré, hein, et puis il y a si bien et on ne sait pas trop comment il faut le prendre.
Eh bien, tu réfléchiras là-dessus, ça t'occupera. On va revoir comme chaque semaine en début d'émission les pilotes que tu as pu visionner pour nous ces derniers jours.
Oui, alors je vais commencer par parler de séries françaises pour une fois parce que ça fait un petit temps déjà que je les gardais sous le coude. Mais j'avais envie d'en dire un mot parce que je suis quand même assez étonnée de voir arriver des séries françaises que j'ai vraiment, vraiment appréciées cette saison-ci. Et donc, je voulais dire tout le bien que j'avais pensé, autant de 10% qui a été diffusé sur France 2, que de Au service de la France qui était diffusé sur Arte. Les deux étaient vraiment assez peu pourvus de défauts tels que j'ai l'habitude de les voir dans les séries françaises.
Elles étaient pour une fois à la hauteur.
Pour une fois, elles étaient à la hauteur de mes attentes. C'est-à-dire principalement que, au niveau de l'image, il y a un travail de l'image qui fait que ça a l'air quand même plus beau, plus léché que certaines autres.
Rien à voir avec Julie Lescaut, quoi.
Non, mais tout de suite, tu ressors les vieux dossiers. Non, rien à voir avec Julie Lescaut. Et en parlant de Julie Lescaut, une des choses auxquelles je suis le plus sensible, c'est aussi le jeu des acteurs. C'est une des choses que je ne supporte absolument pas, même s'il y a un petit personnage secondaire qui joue comme un pied, ça m'horripile.
Et quoi? Et là, tu es en train de me dire que Julie Lescaut, ils jouaient tous pas très bien. Non, mais je veux décrypter, parce que ça peut être l'inverse. Oh, ils jouaient tellement bien dans Julie Lescaut, on en parle. Non, c'était l'inverse. Ok, bon.
Je ne me prononcerai pas, chacun se fera son avis.
Mais... Bon. Allez.
Donc voilà, autant dans Au service de la France que dans 10%, on a de vrais bons acteurs de qualité, on a de vrais dialogues qui sonnent pas faux, qui sonnent pas à côté de la plaque, on a une vraie ambiance aussi qui est mise en place. Et donc, on attend que d'en voir davantage. J'espère que les saisons 2 ne seront pas ratées. On sait que c'est un petit peu toujours le souci avec les séries françaises. C'est que même quand la saison 1 est prometteuse, la saison 2 n'est pas toujours géniale. Donc, je croise les doigts.
Bien, tu n'en dis pas plus, tu ne racontes pas le récit, le contenu, non.
Écoute, c'est déjà passé à la télévision. Tout le monde a eu l'occasion de...
Okay.
De les regarder. Donc
c'est une bonne règle. Ok.
Pour toi, voilà.
Bonne surprise.
Oui, mais de toute façon, je crois que ça peut être conseillé à tout le monde.
Bien.
Ensuite, je vais passer à une série dont on parle déjà depuis un petit temps sur... sur les forums, dans les blogs, sur les réseaux sociaux et tout, parce que comme c'est une série Amazon, le pilote avait déjà été diffusé il y a un petit temps. Ça s'appelle The Man in the High Castle, qui cette fois-ci est bel et bien disponible, diffusé, et donc qui nous raconte cette fois-ci l'histoire d'un... Alors, c'est un monde un petit peu parallèle dans lequel ce seraient les nazis et les japonais qui auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Du coup, les États-Unis sont sous occupation allemande et japonaise. L'Ouest est occupé par les Japonais et l'Est par les nazis. Voilà. Et nous avons au milieu de tout ça... Deux personnages, chacun d'un côté des États-Unis, qui vont, par un concours de circonstances, se retrouver en possession d'un film apparemment très subversif, pour lesquels ils risquent d'être tués s'ils se font attraper, et qu'ils doivent apporter dans une zone de... qui n'est pas occupé à l'intersection de ces deux territoires japonais et nazis. Voilà. Ce que je peux en dire, c'est qu'en dehors du principe qui est immédiatement assez alléchant, on a vraiment le plaisir de voir des décors qu'on a l'habitude de voir tels qu'ils nous sont présentés habituellement, les villes de New York notamment, et je crois que c'est San Francisco, si je ne m'abuse, de l'autre côté, même si je n'en mettrai quand même pas ma main à couper. Et donc on les voit, mais avec des couleurs, des affiches et tout, qui évidemment rappellent davantage toute la symbolique de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est plutôt amusant. L'histoire est assez prenante, les acteurs donnent envie de poursuivre, donc voilà. C'est
un concept original qui a l'air de tenir la route.
Oui, tout à fait, donc ça donne envie de poursuivre encore et encore. On verra jusqu'où ça nous mènera, vu que c'est tiré d'un livre, mais comme évidemment je n'ai pas lu le livre, voilà, ce sera une surprise. Ensuite, je vais parler de With Bob and David. Alors, j'en parle même si c'est qu'à moitié une série, parce que en réalité, c'est un sketch show plus qu'une série. C'est proposé par Netflix et il n'y a que 4 épisodes de proposés. C'est apparemment basé sur un autre sketch show
c'est
qui est relativement culte, qui était diffusé sur HBO dans les années 90, paraît-il, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui s'appelait Mister Show, et qui met en scène principalement Bob Odenkirk et David... Flûte, j'ai oublié le nom. Enfin, Bob Odenkirk, on le connaît pour être le Saul de Breaking Bad et de Better Call Saul, et David Cross, je crois, mais okay. Bon, est l'acteur qui jouait dans Arrested Development, qui jouait Funke, le docteur Funke. Voilà. Donc nous avons ces deux acteurs-là qui sont de très bons acteurs, qui nous proposent un concept assez original, en tout cas quand on ne connaît pas le principe à la base. C'est-à-dire que oui, ce sont des sketchs, mais en même temps tout est lié. Et au final, chaque épisode a un thème et a une sorte de cohérence interne assez marrante. Au tout début, ça a l'air tout à fait nul, en public, dans un décor minable, etc. Et puis on part dans des délires tellement fous que on est totalement fasciné. Et je suis vraiment contente d'avoir découvert ça. Ça donne envie d'en voir davantage. C'est clair que 4 épisodes, je les ai vus tous les 4 hein, d'un coup, tellement j'ai trouvé ça drôle. J'ai pas arrêté de rigoler pendant tout le temps du visionnage, et donc je ne demande qu'à en voir davantage. Donc Netflix, allez au boulot, mon vieux. Hein.
Allez-y. Et pour la petite histoire, c'est bien David Cross.
Voilà.
Tu vois, j'ai été vérifié.
Voilà. Est-ce qu'on a encore le temps ou pas?
Rapidement.
Rapidement, ok. Je vais juste dire un petit mot pour dire que j'ai vu le pilote de Jessica Jones aussi sur Netflix. Je suis désolée, je ne suis pas payée par Netflix, mais ce sont les séries qui m'attirent le plus pour le moment. Alors, mon avis est nuancé, c'est-à-dire que j'en attendais énormément parce que j'avais adoré Daredevil, et j'avoue que le pilote ne m'a pas autant emballé que Daredevil au niveau visuel, au niveau du traitement de l'image. J'ai trouvé que c'était moins beau que ce que j'en attendais. Ceci dit, j'aime beaucoup l'actrice principale, et le principe semble malgré tout relativement prometteur, c'est-à-dire que cette ancienne super-héroïne se retrouve confrontée à un super-vilain hein, qui a comme pouvoir d'avoir la capacité de faire à ses victimes exactement ce qu'il veut, sans qu'elles aient aucun contrôle sur leur propre mouvement, aucune volonté propre, quoi. Et donc, c'est assez flippant, je trouve, comme principe. Et donc, du coup, intéressant, on a envie de voir quand même où ça peut mener. Encore une fois, vu que j'ai aucune culture générale apparemment, vu que je ne sais pas du tout où ça peut bien mener. Donc voilà, un peu déçu sur le pilote, mais malgré tout, toujours pleine d'espoir pour la suite.
Tu restes intrigué.
Voilà.
Bien, bien, bien. Bon, là c'est fini pour les pilotes aujourd'hui.
Oui.
On va passer une petite pause musicale si tu le veux bien.
Oui, on va s'écouter Cold Out in the Dark de Snow Patrol, entendu dans Grey's Anatomy. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. To the streets, we were called out to the towns, and how the heavens they opened up like arms of dazzling gold. Well, we do not need to be told. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different star. This is my chick, this drunken semaphore. Dark.
Revient avec une musique super énervante, c'est le générique de Mindy Project, c'est un choix d'Aurore. Donc si après 5 ou 6 minutes vous en avez marre, ben vous lui en voulez. Alors, côté sujet du jour, les séries et la diversité.
Oui, on va s'intéresser à la représentation des différentes origines ethniques et culturelles dans les séries télévisées. Mmh. À l'occasion de quoi ? À l'occasion de, j'ai l'impression, une sorte de changement qui est en train de s'opérer ces dernières années, justement, sur ce sujet, et qui a assez bien été mis en exergue par un des épisodes de Master of None dont je parlais la semaine passée.
Et quoi ? Enfin, que je comprenne le principe, c'est par rapport au sujet abordé lui-même ou par rapport à, je sais pas moi, à la représentation des minorités ou ce genre de choses, les quotas tels qu'ils ont pu être mis en place à un certain moment, enfin, pas officiellement, mais...
Oui, l'idée, c'est comment sont représentées les minorités. Est-ce qu'il y a un changement qui s'opère pour le moment, où on en était avant, et puis vers où est-ce que on se dirige, où on devrait espérer se diriger bientôt.
Mmh.
Voilà. Alors, pourquoi est-ce que on peut... J'ai l'impression d'observer un changement, mais principalement, il faut bien le dire, parce que on a de plus en plus, simplement dans le réel, dans la société en tant que telle, des personnes non blanches, hein, pour aller un petit peu vite, on pourrait généraliser ça comme ça, qui accèdent à des postes importants à la télévision, que ce soit en tant que créateur de séries, de scénariste, de producteur, ou d'acteur suffisamment bankable pour qu'on puisse miser une série sur leur nom, quoi. Alors, l'intérêt notamment de l'épisode de Master of None dont je parlais, c'est donc, je crois, l'épisode 7 ou 5, peut-être plus 5, enfin, bref, qui s'appelle Indian on TV, quelque chose comme ça. Et qui donc part de simplement l'histoire de cet acteur indien qui veut faire un casting pour une publicité. On lui demande s'il accepte de faire un accent indien, ce qu'il refuse, et du coup, ben, il n'a pas le job. Donc il y a une première prise de conscience comme ça où il commence à passer en revue plusieurs images de tirées de séries dans lesquelles on voit des Indiens, et de fait, ben, ils ont tous un accent indien. Et ensuite, il participe à un casting pour une série, et là, il est tellement bon que ben, il a toutes les chances d'être pris. Le problème, c'est que un de ses amis acteurs, lui aussi est indien et lui aussi est très bon et risque d'être pris aussi. Et il voit passer un mail disant que on ne va quand même pas prendre deux Indiens dans la même série, sinon on risque d'être estampillé série pour Indiens, quoi. Et ça soulève vraiment bien le problème qu'il peut y avoir à la télévision. Ou en tout cas jusqu'à très très récemment, on avait vraiment une sorte de compartimentage des séries. on avait les séries pour blancs où il y avait quasiment que des blancs, et puis les séries. Je dois t'avouer, au niveau des séries pour asiatiques, je sais pas si on avait tant que ça, mais au minimum des séries avec que des noirs qui étaient censés être des séries pour noirs, ça, il me semble que il y en avait aussi. Donc il y avait une sorte de compartimentation comme ça de des séries avec. Donc, comme je l'ai dit, l'apparition de créateurs, d'acteurs, etc., qui commencent à accéder à des postes importants, ben, on voit arriver des séries avec beaucoup plus qu'un seul acteur de couleur et qui, en même temps, n'ont pas la prétention de ne s'adresser qu'à une communauté en particulier. Au contraire, quand je parle de Master of None, je n'ai pas du tout l'impression que c'est une série qui est destinée uniquement à un public indien ou d'origine indienne. De même, on pourrait citer par exemple la série Fresh Off the Boat qui avait débuté l'année passée, qui met en scène une famille asiatique et qui à aucun moment non plus n'est clivante au point que on se dise j'ai pas l'impression que cette série est faite pour moi. Alors que c'est vrai que peut-être qu'avant on pouvait ressentir parfois se sentir un peu exclu de d'autres séries qui présentaient un casting presque exclusivement de couleur. On a aussi Blackish qui est apparu la même année et là qui mettait une famille afro-américaine. Alors un des grands hits, des grands succès de l'année passée, c'est Empire qui a aussi un casting presque exclusivement noir. Et puis on pourrait citer d'autres séries encore qui pour le moment surfent un petit peu sur cette vague-là, qui évidemment ont un grand succès auprès de la communauté qu'elles représentent, mais qui ne se limitent pas à ce public-là, mais qui au contraire s'adressent à tout le monde. Même si le casting n'est pas exclusivement de couleur, des séries comme The Mindy Project, Rosewood ou Luther, par exemple, sont aussi des séries un petit peu novatrices à ce niveau-là, parce que c'était aussi, et ça l'est encore, très rare d'avoir des héros, des personnages principaux de couleur, tout simplement.
Voilà, on a fait table rase des clichés, j'ai l'impression, parce que les familles que tu décris de couleur qui sont représentées dans les séries télévisées, bien voilà, ce sont des familles bien intégrées qui représentent quelque part le bon américain moyen, on est bien d'accord. Enfin, je veux dire par là qu'ils ont les expressions, ils n'ont pas d'accent, ils sont bien insérés dans la société. Je veux dire par là qu'ils travaillent depuis longtemps. Enfin voilà.
Oui, oui.
C'est la Nouvelle Amérique, en gros.
De fait,
ça aide.
C'est probablement aussi. Alors là, c'est peut-être que je me trompe totalement, hein, mais on a l'impression d'avoir maintenant une génération justement d'acteurs et donc de personnages qui n'ont plus un rapport à leur origine ethnique ou culturelle.
L'exemple parfait, c'est ton acteur indien là, qui ne veut pas prendre l'accent indien parce que voilà,
oui.
Pour lui, il est américain, point
oui,
final.
Oui, c'est ça. Il se situe dans un au-delà du discours raciste. Socialiste, ou je sais pas comment on peut l'appeler, qui voudrait que les communautés sont très distinctes. Ils ont jamais vraiment été dans le combat Et donc peut-être aussi que c'est un signe de ça, quoi. Mais malgré tout, à travers différents sujets, ils mettent quand même en avant des problématiques dont on n'avait pas forcément conscience avant, parce que justement, comme ces personnages-là étaient relégués en second plan, l'idée que les personnages indiens étaient tous affublés d'un accent, tu t'en rends pas compte parce que t'as tellement l'habitude que ça te paraît normal, tu vois. Puis là, tout à coup, finalement, c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Et le fait d'avoir ça, ce genre de nouvelle série, ça ouvre un petit peu les yeux et ça ouvre aussi les possibilités pour ces acteurs-là. Une autre prise de conscience aussi, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus c'est qui, mais je me demande si ce n'était pas Mindy Kaling, avait publié sur Twitter une question: est-ce que vous pourriez citer une série dans laquelle le héros ne sort pas que avec des personnages blancs, des actrices blanches. Et de fait, tu te poses des questions, tu regardes un petit peu les grandes comédies que tu as toujours regardées, toujours adorées. Moi, je pense en particulier principalement à Seinfeld, que j'adore. Je regarde Seinfeld, il sort avec une femme différente dans quasiment chaque épisode. Il y a quand même 9 saisons. J'ai pas souvenir qu'il y ait une seule femme d'origine différente.
Je te parle même pas de Magnum, quoi.
Mais Magnum, je ne sais pas. Faudrait peut-être se refaire l'intégrale.
Oui, long, pénible. Pourtant, j'ai adoré, mais ça a mal vieilli, malheureusement.
Oui, forcément.
La Ferrari est toujours aussi belle, mais les propos sont un peu sexistes, malgré tout.
Voilà. Mais tu vois, ça veut dire que les mentalités, malgré tout, changent sans même qu'on s'en rende compte. Donc, au niveau des rôles principaux, c'est intéressant de constater qu'il y a une évolution. Et même au niveau des personnages secondaires, on peut constater aussi qu'on commence de plus en plus à avoir des personnages secondaires qui sont de fait de couleur, soit d'origine asiatique, soit d'origine afro-africaine ou quoi que ce soit, mais qui ne sont absolument pas caractérisés par cette couleur de peau.
Ça nous change de Babou.
Ça nous change en effet de Babou, oui. Donc ça peut être simplement des personnages qui sont un intérêt amoureux pour le héros ou l'héroïne de l'histoire. Il se fait qu'il est de couleur, mais ça ne change absolument rien, ni à l'intérêt qu'il a, ni au regard qu'on peut porter sur lui. Ça peut être le cas dans Crazy Ex-Girlfriend, par exemple, cette année-ci, dans Selfie, ou ce genre de série-là, dans Playing House. On a aussi, dans Fargo, un personnage de mafieux qui n'est jamais d'habitude joué par un acteur noir. Et
surtout
là,
dans ces années-là, j'ai envie de dire.
Surtout dans ces années-là et dans ces territoires-là aussi. Et là, y a ce choix qui est fait et qui est un choix gagnant parce que c'est un choix de casting vraiment qui change un petit peu la donne et qui ne fait pas faux, qui ne donne pas l'impression de « oui, on l'a mis parce que on trouve que c'est important d'avoir une représentation des minorités ». On n'a pas cette impression-là, ça apporte véritablement un plus. Donc voilà, on pourrait citer encore beaucoup de séries comme ça, dans lesquelles, dans les personnages secondaires aussi, on a une meilleure représentation, moins stéréotypée des minorités. Minorité entre guillemets.
Ok. Allez, on va repasser à la musique si tu le veux bien. On a déjà beaucoup parlé. On reviendra avec le sujet du jour dans quelques instants, juste après.
What's Up des Four Non Blondes, entendu dans The Mindy Project.
My life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed, trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Nous voici déjà de retour. Cette fameuse diversité, vers quoi elle nous mène?
Ben déjà, on va faire un état des lieux de ce qu'on avait avant. Hein, où ça nous mènera, ben ça, on verra bien. Hein.
Oui.
D'accord.
Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on avait avant? Ben, j'ai déjà commencé par dire tout à l'heure qu'il y avait une beaucoup plus grande séparation. Il y avait les séries généralistes où on avait quasiment que des acteurs blancs, et puis des séries spécifiques pour certaines communautés avec des acteurs de cette communauté-là. On avait, malgré tout, à partir d'un moment, on a commencé à se rendre compte qu'il fallait commencer à intégrer des acteurs de couleur. Donc, on a eu soit...
Une sorte de parité, parfois. On en a intégré un pour dire.
Oui, c'est ça. C'est voilà. Pas vraiment la parité, quoi. Hein. C'est plus, on en intègre un pour dire, en effet, mais... généralement, ça s'accompagne de tous les clichés possibles et imaginables. On a cité les accents pour les personnages d'origine indienne, mais par exemple, le fait que bah, si t'as un acteur indien, bah, y a de fortes chances qu'il joue un docteur, que si t'as un acteur asiatique, il y a de fortes chances qu'il joue un spécialiste de l'informatique ou ce genre de choses-là, c'est quand même assez courant. Hein, ça n'étonne pas vraiment grand monde.
Non, mais sans vouloir faire d'amalgame, enfin, c'est parfois un reflet d'une certaine réalité aussi.
Oui, mais en même temps, on en revient toujours à nos vieux débats. En même temps, on a évidemment une sorte de représentation qui se veut un reflet de la réalité, mais qui a autant d'effet sur la possibilité, les horizons d'attente des individus que le contraire. Tu vois, si toute ton enfance tu as vu des personnes qui te ressemblaient faire tel ou tel métier, il y a de fortes chances que sans même t'en rendre compte, inconsciemment, tu penses que tu as beaucoup plus de chances de réussir en devenant, je sais pas moi, footballeur ou médecin, que qu'en faisant autre chose dont tu n'as jamais vu aucun représentant dans l'imaginaire collectif.
Mmh. Ouais,
tu vois ce que
bien.
Je veux dire. Donc, est-ce que c'est le reflet de la réalité? Ben c'est énormément de clichés, qui finissent par avoir un effet sur le réel, quoi.
Je parlais peut-être à une certaine époque, les informaticiens qui débarquent indiens, ça a été une réalité, c'est peut-être encore une réalité, c'est un domaine dans lequel ils excellent. Mais donc voilà.
Disons au minimum que y a de fortes chances, en effet, que dans les premières générations, il y ait certaines communautés étaient quasiment importés dans certains pays
pour ces matières-là,
pour faire
oui, voilà.
ces okay. métiers-là. Oui, on peut probablement imaginer ça, mais c'est vrai que plus on s'éloigne de cette première génération-là, et plus ce cliché est ridicule. Donc, on avait énormément de clichés. On a cité Babou, mais on pourrait aussi citer, par exemple, Raj dans The Big Bang Theory. Hein, qui mm-hmm. lui aussi, mine de rien, dans Awkward, par exemple, on a, en tout cas dans les premières saisons, parce qu'il finit par disparaître sans même qu'on s'en rende trop compte, on a une troisième copine qui est asiatique et qui a des parents extrêmement stricts et tout. On est très fort dans les clichés, encore une fois. On a aussi... un certain nombre de séries dans lesquelles on va avoir une tentative, en effet, d'avoir une parité, c'est-à-dire un acteur blanc accompagné d'un sidekick de couleur, mais généralement, ce sera pas le sidekick qui sera ni le plus intelligent, ni le plus séduisant, ni ce sera plus une mise en valeur, parfois la caution comique de la série, plus ce genre de choses-là. Je pense par exemple à une série comme Psych, dans laquelle on a le héros qui est accompagné de son meilleur ami noir, mais qui est plus là pour faire rire qu'autre chose. Bon, malgré tout, on a cité là un certain nombre de séries dans lesquelles on avait des clichés, etc. malgré tout, plus on avance et plus on peut constater qu'il y a des séries qui ont essayé de faire des efforts, même si on peut toujours se demander quelle est la portée réelle de ces efforts. Par exemple, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de séries dans lesquelles on voit davantage d'acteurs noirs que dans d'autres, mais en même temps, c'est quand même très souvent des séries qui se situent dans des contextes de pauvreté, de criminalité, de violence, et ce genre de choses. Et donc, ça risque d'entretenir aussi les préjugés autant que ça n'apporte de la visibilité à la communauté en question. Il y a certaines séries qui ont joué aussi un petit peu avec toutes ces histoires-là. Je pense principalement à South Park avec son token, qui est donc le nom du seul personnage, du seul enfant de couleur du dessin animé, et qui ben justement est là uniquement présenté comme la caution de représentation.
Pour bien rappeler le principe.
Pour bien rappeler le principe, en effet. Il y a aussi d'autres séries qui jouent avec ça. Par exemple, dans The Neighbor, on a donc une famille qui a pour voisin une famille d'aliens. Et dans cette famille d'aliens, ils sont tous de couleurs différentes. Ce qui souligne évidemment un petit peu le côté saugrenu de ces aliens qui n'ont manifestement rien compris à l'organisation très stricte dans laquelle devait se faire la famille normalement. On a aussi dans Curb Your Enthusiasm une sorte de réflexion du héros principal joué par Larry David sur le fait que, et sans s'en rendre compte, il a le sentiment d'avoir des réactions un peu racistes, et du coup, pour essayer de lutter contre ça, il va essayer de compenser à fond, et du coup il va commencer à être plus ou moins envahi par un personnage qui vient s'installer chez lui et qui devient le pique-assiette. Donc il y a malgré tout plusieurs séries qui ont essayé de jouer avec ces questions-là pour ne pas en rester simplement au cliché ou bien dans la négation totale de certaines communautés, quoi.
À l'inverse, moi j'ai quand même l'impression que plusieurs séries assez anciennes à caractère, on va dire, familial, donc qui touchaient à tout le monde, avaient quand même fait l'effort. Je pense à l'Agence Touriste, tu avais quand même Mr. T. Quand tu regardes Magnum, j'y reviens, mais t'as quand même Terry, le pilote d'hélicoptère. Et le duo emblématique d'une série télé, c'est dans Miami Vice, de Flic à Miami, t'as quand même Crockett et Tubbs. Bah, voilà.
Oui.
Et donc,
c'est ce que j'explique sur le sidekick. C'est...
Oui et non, Crockett et Tubbs, je suis désolé, oui, ils sont plus ou moins équivalents.
Enfin, oui.
Oui. Et là, ouais. Là, il fait pas que pot de fleurs, le gars.
Ok, je connais très mal cette série-là, je dois te l'avouer. Mais oui, probablement, en effet, que. Et d'ailleurs, en fonction aussi de l'endroit où se situe la série, tu vas avoir plus ou moins, malgré tout, de représentations colorées que dans d'autres. Hein. Par exemple, dans les séries qui se passent à Miami ou même à Los Angeles, tu as davantage de diversité que dans d'autres séries qui peuvent se situer plus au nord des États-Unis. Donc oui, probablement, il est possible que Miami Vice soit un exemple. Mmh. Un autre exemple qui est assez souvent cité, même si à nouveau je connais très mal, c'est Star Trek, qui est aussi une tentative de représenter une sorte de société qui intègre les différentes communautés. Bon, à travers tout un jeu symbolique, puisqu'on a affaire à différentes peuplades, aliens, etc. Mais donc, voilà, oui, il y a évidemment certaines séries particulières. On peut même simplement penser, j'ai dit qu'il y avait des séries pour blancs et des séries pour d'autres communautés, mais par exemple, je me souviens que quand j'étais petite, je regardais le Cosby Show, j'ai pas l'impression que le Cosby Show était destiné que à des personnes noires.
Et le Prince de Bel-Air s'en sortait pas mal.
Et le Prince de Bel-Air, oui, aussi. Même si, à nouveau, probablement que la cible d'origine s'est simplement étendue parce que la série était suffisamment drôle et agréable pour que d'autres communautés commencent à s'y intéresser. Quoi.
Bien sûr. Allez, encore une petite pause musicale, si tu le veux bien.
Oui.
Voici venir.
Use Somebody de Kings of Leon, entendu dans Being Humans. Voici de retour pour cette dernière partie d'émission. Il nous reste peu de temps pour clôturer ce sujet. Alors, vas-y,
Lance-toi dans la mêlée.
Oui, bon, donc comme il faut réduire ce que j'avais prévu, je vais simplement parler du fait que malheureusement, là, on a parlé plutôt de séries qui faisaient des efforts. Malheureusement, il faut quand même bien constater qu'on a une grande, grande majorité de séries encore aujourd'hui qui sont dans une sorte d'invisibilisation des minorités parce qu'elles ne présentent qu'un casting presque exclusivement blanc sans qu'à aucun moment ce soit véritablement questionné. Et quand par hasard, malgré tout, ça finit quand même par leur causer une ou deux critiques, parfois ils finissent par intégrer un personnage de couleur secondaire, bien souvent plutôt caricatural, et surtout, mais il faut se rendre compte que si tu as un seul personnage qui est censé représenter l'ensemble d'une communauté, il n'y a pas d'individualisation qui est possible, on a juste un personnage qui est censé représenter tout le monde, quoi. Donc il est porteur de si c'est un mauvais personnage, on va le lui reprocher évidemment parce que il fait du mal à l'ensemble de la communauté. S'il est caricatural, même chose. Et donc c'est problématique de n'avoir qu'un seul représentant de telle ou telle origine ethnique. Un autre problème de cette invisibilisation, ce seront dans les séries historiques, puisque là aussi, ça nous donne bien souvent une version expurgée de ces questions-là. Dans certaines séries, on a l'impression que il y avait, en fait, dans l'histoire, il y a jamais eu que des blancs, quoi. Alors que les documents historiques démontrent que non, il y avait aussi des Asiatiques ou des Africains lors de certaines autres périodes de l'histoire, beaucoup plus que ce qu'on ne peut l'imaginer, parce que justement, dans les fictions qui nous sont présentées, ces minorités-là ne sont pas du tout mises en scène la plupart du temps. Donc on a un imaginaire historique qui est expurgé de la différence ethnique. Du coup, évidemment, un certain nombre de séries qui jouent sur l'imaginaire posent problème quand elles sont également exclusivement blanches. Ce sont aussi le cas de très 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 nombreuses comédies qui sont bien souvent les séries les plus regardées et qui ont le plus de succès. Des séries comme Friends, comme How I Met Your Mother, comme Modern Family, ce genre de séries-là. Si on y regarde d'un petit peu plus près pour ce qui est de la représentation des autres couleurs de peau, sont pas tout à fait au top. Les séries un petit peu intello qui sont très très aimées par la critique non plus, hein. C'est bien souvent que si on regarde par exemple Trou Détective, Transparent, Girls, The Good Wife et tout ça, c'est très 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 blanc tout ça, et on pourrait encore en citer énormément parce que finalement si on regarde l'ensemble des séries, ça reste quand même majoritaire.
Bien, mais on va vers un mieux. Il y a de l'espoir, il y a une belle évolution.
Mais malgré tout, il y a en effet, moi j'ai l'impression qu'on peut déceler un vrai mouvement, une vraie prise de conscience et du coup probablement une vraie possibilité de changement dans les années qui viennent de s'écouler et encore plus évidemment à l'avenir grâce à des précurseurs comme par exemple Aziz Ansari dont on vient de parler aujourd'hui, mais aussi Shonda Rhimes par exemple, ou ce genre de personnes là qui changent un petit peu la donne parce qu'elles commencent à avoir suffisamment de pouvoir pour le faire, quoi.
Bien, Voilà qui clôture Série Folie de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Toute l'actualité de votre émission préférée, eh bien, c'est via le site internet, notamment www.seriefolie.be, Série Folie en un mot avec SA Série. Les réseaux sociaux, même chose, hein, seriefolie.be, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Et puis pour le reste, le podcast de l'émission débarque dans quelques heures, quelques jours. Soyez patients et réécoutez-le avec insistance.
Voilà, oui.
On va se quitter en musique, Aurore ?
Oui, on va s'écouter cette fois-ci World Up de Cameo, entendu dans Selfie.
Merci à toi, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.